Biodiversité samedi, le rendez-vous nature de Naz avec le syndicat mixte de la baie de Bournaz.
Un nouveau rendez-vous et dernier de la saison de la biodiversité samedi. Le syndicat mixte de la baie de Bourgneuf, à l'origine de cette émission, a choisi un beau sujet pour clore cette année. Un beau entre guillemets à l'annonce du thème autour de moi. J'ai eu beaucoup de réactions. Nous allons parler aujourd'hui des serpents avec Vincent Boissonneau. Bonjour Vincent.
Bonjour.
Alors vous êtes technicien forestier, vous travaillez évidemment à l'ONF, Office National des Forêts. Alors on le rappelle, vos missions sur le territoire, c'est la première fois que vous venez sur Neuf. Et votre parcours, Vincent?
Alors, mes missions sur le territoire, comme tout le monde à l'Office National des Forêts, c'est la gestion des forêts, des collectivités, des forêts domaniales, la protection des milieux, l'accueil du public et la production de bois là où c'est possible. Pour mon parcours, voilà, j'ai commencé il y a déjà pas mal d'années, une trentaine d'années, voilà, j'ai commencé mon métier comme ouvrier forestier, puis j'ai évolué dans différents services à l'ONF et hors ONF, avant de retrouver un poste plus stable sur la Vendée.
Alors la Vendée, j'ai reçu plusieurs de vos collègues sur le territoire, notamment Pays de Mont, mais vous n'êtes pas forcément basé ici, vous?
Non, moi je suis basé carrément à l'intérieur des terres, sur la forêt domaniale de Mervent-Vouvent, à 150 km d'ici.
Mais vous venez souvent ici? Enfin souvent, vous venez régulièrement?
Oui, je viens régulièrement, au minimum trois fois par an. En fait, je viens ici pour compter les oiseaux. Voilà, c'est un programme qui s'appelle le programme STOCK, le suivi temporel des oiseaux communs. Et je viens trois fois par an sur la forêt pour compter les oiseaux.
Alors pour la petite histoire, vous êtes celui qui a découvert l'arrivée, le retour peut-être du lézard osselé sur notre territoire?
Oui, par chance, en 1998. Alors que je comptais les oiseaux, j'ai été curieux, j'ai soulevé une plaque que mes collègues avaient posée pour signifier la présence de reptiles. Et puis, quelle ne fut pas ma stupéfaction de voir un lézard osselé, animal que je connais bien. Et voilà, donc tout de suite, ça m'a tilté, me disant qu'il n'avait jamais été vu en Vendée. Donc, j'ai alerté les services compétents dans ce domaine.
Mais aujourd'hui, on en retrouve plus régulièrement?
Alors, je sais que mes collègues sont venus les semaines précédentes pour les compter et essayer de dénombrer combien il y avait d'individus jeunes et adultes sur le site. Il me semble qu'ils en ont trouvé une dizaine, ce qui est une toute petite population qui s'est un petit peu étendue. Mais voilà, et on peut passer à côté. Hein. Peut-être que le lézard osselé était là depuis très longtemps et que personne ne s'en était rendu compte parce que personne ne s'y était intéressé. Mais le lézard, c'est un reptile hein, comme les serpents.
Alors justement, on ferme la parenthèse et on parle effectivement de cet autre reptile si connu, si fascinant. C'est le serpent. C'est tout de même le premier animal qu'on retrouve dans la Bible, à côté d'Adam et Ève, le premier animal à être présenté, déjà pas très très bienveillant. La mythologie le représente souvent aussi, donc depuis des siècles et des siècles, le serpent fascine.
Ah oui, de toute façon, il fascine qu'on le retrouve dans toutes les mythologies. La mythologie grecque, la mythologie romaine dans la Bible, comme vous l'avez dit, la mythologie celte, la mythologie américaine, partout, chinoise, japonaise. Voilà. Par exemple, dans la mythologie grecque, le serpent symbolise l'esprit gardien. Dans la mythologie romaine, il est associé à la magie de la guérison.
Il n'a pas forcément une image négative alors?
Non, il peut avoir les deux images. L'image représenter la mort ou bien la vie par la guérison. La mue du serpent, par exemple, représente l'enveloppe charnelle, l'âme. Ils sont aussi représentés, les serpents, par des dragons. Le serpent qui se mord la queue représente à la fois la vie et la mort. On le voit souvent représenté comme ça. Chez nous, si vous connaissez la légende de la fée Mélusine, par exemple, la fée Mélusine, une fois par semaine, elle se transforme. Ses deux jambes deviennent des queues de serpent recouvertes d'écailles. Son mari Raymondin ne doit pas la voir pendant le moment où elle se transforme. En fait, chez nous, le serpent est représenté par trois symboles. Alors, si vous connaissez le caducée, ce sont deux serpents qui sont enroulés autour d'un bâton. Et en fait, ça représente le commerce et la négociation. Un autre, la coupe d'Igy, qui représente un serpent sur une coupe. Ça, c'est le symbole de la pharmacie. Vous regarderez bien les enseignes de pharmacie, il y a ça. Et puis, celui que vous voyez le plus souvent, c'est le bâton d'Esculape, qui porte le nom de la couleuvre d'Esculape, le bâton d'Esculape avec un serpent entouré autour, qui est le symbole de la médecine et que vous retrouvez sur les voitures des infirmières ou des médecins.
Animal à la fois légendaire, mais aussi bien réel, on le retrouve dans le monde entier, le serpent.
Oui, on le retrouve partout, il est présent partout dans tous les pays du monde, sauf en Irlande, puisque là encore, dans la mythologie celte, Saint Patrick aurait débarrassé l'Irlande de tous les serpents.
Mais est-ce qu'il l'a vraiment fait ? Enfin, est-ce qu'il n'y a vraiment pas de serpents en Irlande ?
Alors, je ne peux pas confirmer exactement, mais bon, moi j'y suis allé, je n'en avais pas vu.
En revanche, vous en voyez en France, est-ce qu'on a beaucoup d'espèces d'ailleurs, de variétés de serpents ?
Oui, alors en France, on a 8 espèces de couleuvres et 4 espèces de vipères. En plus de ça, nous avons 2 espèces qui sont l'orvet et le seps strié, qui sont des sauriens, comme des lézards, alors que les serpents sont des ophidiens. En fait, l'orvet et le seps strié ont la queue qui casse. C'est-à-dire que si vous les prenez, ils vont se défendre en libérant le bout de leur queue de manière à attirer le prédateur sur cet organe qui va bouger et leur permettre de s'enfuir. Contrairement aux lézards, la queue du serpent, de l'orvet ou du seps strié ne repousse pas.
En nord-ouest Vendée, on a des espèces en particulier, celles que vous venez de citer en fait ?
Alors, en nord-ouest Vendée, je dirais que c'est là qu'on a le moins d'espèces représentées. Parce qu'en fait, nous avons la couleuvre à collier, qu'on appelle aussi couleuvre helvétique. On a la couleuvre vipérine ou la coronellis, en plus de l'orvet fragile. La couleuvre verte et jaune, malgré toutes les recherches que j'ai faites, elle n'est pas présente sur le marais breton. C'est pour moi la plus belle des couleuvres, celle qui fait enfin, je vous parlerai de la reproduction tout à l'heure, mais c'est une très très belle couleuvre qui peut atteindre 1,60 m de longueur. C'est un très bel animal. Et parmi les vipères, on a la vipère aspie seulement de représenter ici. Une autre vipère qui se trouve un petit peu plus au nord, qui s'appelle la vipère péliade. La vipère aspie ne remonte pas trop au nord puisqu'elle craint le froid. Contrairement à la vipère péliade, que l'on va trouver partout dans la partie nord de la France et un peu aussi vers le Limousin, plateau des Mille Vaches, massif central.
Alors déjà, il faut évidemment différencier les espèces et mieux les connaître aussi. On fait une petite pause musicale, Vincent Boissonneau, et on revient après. J'aurais beaucoup, beaucoup de questions à vous poser. sur 9 FM, la biodiversité, samedi de ce 1er juillet, consacré aux serpents. Et avec nous, Vincent Boissonneau de l'ONF, l'Office National des Forêts. Vous en croisez souvent, vous, dans votre travail en Vendée, des serpents?
Oui, j'en croise souvent parce qu'en fait, je les cherche un peu en marchant. Parce que je me dis que dans me trouvant dans un tel milieu, je risque de croiser un serpent aux heures où le soleil commence à chauffer un petit peu. Le serpent a besoin de se thermoréguler et il vient au soleil, voilà, pour pouvoir après partir en chasse. Voilà. Donc, il m'arrive facilement de croiser des couleuvres ou des vipères de temps en temps. Voilà.
Justement, moi, je suis profane. Hein. Je suis incapable de distinguer une vipère d'une couleuvre. Je pense que beaucoup vont se moquer de moi en écoutant. Mais comment est-ce qu'on les distingue?
Eh bien, il faut les regarder dans les yeux.
Non.
En fait, faut pas s'approcher si près. Mais en fait, il y a plusieurs critères pour les différencier. Alors, le critère que tout le monde pense, qui est totalement faux, c'est-à-dire qu'on dit tout le temps que la vipère a la tête en V, et c'est faux. La vipère a des écailles, comme la couleuvre, et elle, la vipère, a beaucoup d'écailles sur la tête. Alors que la couleuvre n'a que très peu d'écailles, au nombre de 9 hein, sur sa tête. Voilà. En plus, alors si vous avez la chance de bien voir son œil, eh bien, la pupille de la couleuvre est ronde, bien ronde. Tandis que celle de la vipère, elle est fendue. Donc, c'est un très bon critère pour les reconnaître.
Donc, vous étiez sérieux, il faut les regarder dans les yeux.
Oui, c'était sérieux. Alors, de plus, vous ne verrez pas une vipère nager dans l'eau. Ce sont seulement les couleuvres. Par contre, il y a une espèce de couleuvre que l'on trouve dans l'eau, qui passe presque toute sa vie dans l'eau, c'est la couleuvre vipérine, qui, elle, ressemble comme deux gouttes d'eau à la vipère aspie, mais qui est tout le temps dans l'eau. Voilà, et qui est totalement inoffensive.
Et au niveau de la taille, une couleuvre est plus grande, plus petite qu'une vipère, ou ça dépend des espèces?
Oui, les couleuvres sont plus grandes. Alors, on peut facilement les reconnaître aussi, puisque leur corps de la tête jusqu'à la queue va diminuer progressivement jusqu'à devenir tout fin. Tandis que pour la vipère, eh bien, de la tête jusqu'au cloaque, c'est-à-dire là où il y a son anus, eh bien, elle va diminuer très vite à partir de ce moment-là. Donc, une vipère, on va dire qu'elle va pas dépasser les 70 cm de longueur, alors qu'une couleuvre, notamment les vertèges jaunes ou les couleuvres esculapes, peuvent être faire 1m50, 1m60, 1m... Voilà, c'est des animaux qui sont très longs.
Alors, vous me disiez, il y a d'autres espèces qui sont aussi très identifiables avec des petites pattes pour certains serpents?
Oui, alors je vous parlais tout à l'heure de l'orvet et du ceps strié. Alors, le ceps, il n'a toujours pas été découvert en Vendée. Peut-être qu'un jour, ça arrivera. Voilà, c'est un serpent qui a conservé ses pattes de lézard qui ne lui servent pas. Donc en fait, il a 4 petites pattes, 4 membres avec des longs doigts qui ne lui servent pas.
Mais on n'en a pas ici, hein.
Non, il est présent en Charente, mais pour l'instant, on le cherche.
Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur le corps du serpent? On imagine un corps en un tenant, mais c'est pas si simple que ça.
Non, en fait, de la tête à la queue, il est pourvu de plein d'écailles, des écailles toutes fines. On croit tout le temps que c'est une peau sale, rugueuse. Et en fait, non, un serpent, c'est très très lisse. Et voilà. Certains ont des méthodes pour se défendre, comme la couleuvre à collier, par exemple. Elle, quand elle se sent agressée, elle va lâcher un liquide nauséabond, pestiférant, qui fait croire à son agresseur que cet animal est en état de putréfaction. Et par la même occasion, elle fait la morte, ce qui fait qu'elle bouge plus. Et vous pouvez attraper une couleuvre à collier, vous la prenez dans vos mains et elle va faire la morte. Elle va ouvrir la bouche, sa langue bifide va pendre et plus aucune réaction. Vous la remettrez par terre et dans les quelques minutes qui suivent, elle va repartir. Et là, son stratagème aura bien fonctionné.
Alors, un mot sur sa langue, justement, cette petite langue qu'on voit sortir, qui nous fait un petit peu peur aussi. Elle est menaçante ou c'est juste une vue de l'esprit?
Exactement. La langue n'est pas du tout menaçante. Elle n'a pas de venin. En fait, ça lui sert juste pour détecter les proies. En fait, c'est les deux parties de sa langue vont capter des molécules chimiques qui, en fonction de la bestiole, des molécules va lui déterminer ce que c'est comme proie. Et plus elle sort et elle rentre sa langue, plus elle juge de la proximité de la proie qu'elle peut attraper. Donc, avec des capteurs qu'elle a dans sa bouche, quand cette langue va re-rentrer, elle va envoyer des signaux au cerveau et elle va, dans son cerveau, va se formuler une image 3D de la proie potentielle qui se trouve tout près d'elle ou assez loin d'elle.
Alors, qu'est-ce que le serpent mange? Qui mange le serpent? Et est-ce que sa vie est menacée aujourd'hui, hein, dans une période plutôt compliquée pour la biodiversité? Ben, je vous pose toutes ces questions dans 3 minutes, hein, Vincent Boissonneau de l'ONF. You won't fight him anywhere. He's gone for good. Lost for everybody. I hope to hear from you. I hope one day some inspired by you. We be better people. I think I see him everywhere. Even gone. I feel him all around. Là, j'ai peur de dormir, debout, de regarder. Dans ces vagues, je sais, je m'ennuie de vous. Et si je dois rester le même au-delà de tous ces mots, est-ce que tu voudrais encore de moi? Cet aveu qui rend fou, un long voyage jusque dans tes bras. Et si je dois rester la même au-delà de tous ces mots, est-ce que tu voudrais encore de moi? Pardonne-moi, pardonne-nous de cet aveu qui rend fou, un long voyage jusque dans tes bras.
Valdis Le Bois Cendré à Saint-Jean-de-Mont vient de recevoir sa 4e étoile. Découvrez une cuisine créative et raffinée dans un cadre somptueux et fraîchement relooké. Et pour profiter de l'été, une magnifique terrasse ouverte sur la Pinède vous attend midi et soir. L'accès est ouvert à tous, même sans thalasso. Restaurant Le Bois Cendré, 16 avenue des Pays de Mont à Saint-Jean-de-Mont. Ouvert 7 jours sur 7, même sans thalasso. Réservé au 02 51 59 15 15.
Oseille Gravier Déco Chaland est le spécialiste en matériaux pour vos aménagements extérieurs. Venez découvrir un site de plus de 5000 m² où vous trouverez plus de 350 références en vente libre. Gravier, ardoise, bois, galets, si vous avez une idée, un projet, osez Oseille. Vous avez besoin d'un seau ou de 1500 kg? Chez Oseille, on vous charge ce qu'il vous faut. Alors vous commencez quand? Maintenant? Oseille Gravier Déco Chaland, ouvert aux particuliers et aux pros, 21 rue Christophe Colomb, zone des Judices, route de Cholet à Chaland.
Voir conditions en magasin.
Les serpents sont à l'honneur aujourd'hui dans la biodiversité. Samedi, vous êtes bien sûr à 9FM, on parle de cet animal qui est fascinant. Il suscite la crainte ou l'adoration. On a beaucoup de passionnés qui ont des serpents chez eux. Je vous proposais, Vincent Boissonneau, donc notre invité aujourd'hui de l'ONF, de nous parler un petit peu du cycle de vie aussi du serpent, à commencer par sa naissance. Qu'est-ce qu'on sait de la reproduction du serpent?
Eh bien, on a deux types de reproduction. Il y a des serpents qui sont ovipares et d'autres ovovivipares. Ovipare, vous pensez à l'œuf, comme un O, c'est les couleuvres, voilà, en règle générale. C'est-à-dire que la couleuvre va pondre des œufs qu'elle va mettre à un endroit et les petits vont éclore des œufs. Tandis que pour la vipère, il y aura des œufs dans le ventre, mais les petits vont naître dans le ventre et elle va faire ses petits comme un mammifère. Quand les petits naissent, ils sont aptes à vivre tout seuls. La mère ne les accompagne pas, ils partent chacun de leur côté. Donc vous comprendrez que ce sont des petites bêtes qui vont manger des toutes petites proies. Au début, ils vont consommer des insectes, des lézards, des toutes petites proies qu'ils peuvent attraper. Une vipère, quand elle naît, elle a déjà du venin. Elle a ses crochets qui lui permettent de mordre une proie pour la tuer afin de la consommer après.
Tous les serpents, d'ailleurs, fonctionnent comme ça, avec du venin ?
Non, il n'y a que la vipère qui a du venin. Alors, les serpents sont... Je vais revenir là-dessus parce que les serpents sont vraiment inoffensifs. Il faut arrêter de craindre les serpents. Ce sont des bêtes qui ne nous veulent aucun mal. Quand on marche dans la forêt, les serpents, ils ressentent toutes les vibrations. Ils n'ont qu'une envie, c'est de se sauver au ressenti de ces vibrations. Et malencontreusement, si on peut marcher sur une couleuvre ou une vipère, ce qui est vraiment très très rare, eh bien, celle-ci peut se retourner ou mordre. Alors, pour une vipère, elle peut forcément mordre et injecter du venin, ce qui n'est pas forcément valable à chaque fois. Mais les couleuvres sont inoffensives. Elles peuvent mordre, mais elles n'ont pas de venin. Et pour m'être fait mordre, je peux vous dire que ça fait moins mal qu'une piqûre de ronce.
Vraiment ?
Oui, tout à fait. C'est vraiment pas douloureux et on a beaucoup de préjugés, mais qu'on laisse ces animaux tranquilles, ils sont bien, ils sont protégés. Hein. Tous les reptiles sont protégés et ils ont vraiment leur utilité dans la chaîne alimentaire.
Bah justement, j'allais venir à cette question, mais juste avant, un petit mot quand même sur un phénomène qui est important dans le cycle de vie du serpent, c'est la mue. On l'a évoqué, c'est tous les ans ça pour lui, ou c'est plusieurs fois par an même ?
Oui, ça peut être plusieurs fois par an. Alors c'est un moment délicat dans la vie du serpent, parce que en fait, si les serpents sont obligés de muer, parce qu'en fait ils perdent pas leur peau comme nous. Nous, comme les lézards, les lézards perdent des morceaux de peau, nous aussi des petits bouts de peau, on desquame régulièrement. Tandis que la couleuvre ou la vipère, leur peau, ils peuvent pas grandir. Si, c'est comme si vous portiez des habits trop serrés toute votre vie, vous changiez pas d'habits, vous seriez complètement serré. Donc elle est obligée de se séparer de ces habits-là. Donc tous les ans, et c'est un moment critique pour la couleuvre ou la vipère, parce que là, elle est très vulnérable. Elle devient aveugle, parce que tous ses yeux sont recouverts, ils deviennent translucides. Et voilà. Et donc, cette peau se détache lentement de son corps. En une fois, elle se sépare de cette peau en se frottant sur un arbre ou un caillou, en commençant par la tête et les mâchoires, et hop, elle sort de, comme si elle enlevait son pyjama. Et ça nous arrive, on peut vous regarder, vous pourrez retrouver une mue complète d'un serpent, souvent coincé entre deux pierres parce que ça lui a permis de bien retirer cette peau, ou alors par petits bouts, mais jamais très loin les uns des autres.
C'est toujours passionnant. Alors très rapidement, justement, la place du serpent dans la chaîne alimentaire, c'est un prédateur, il a aussi des prédateurs.
Oui, bien sûr, heureusement qu'il est là, il va manger des petites grenouilles, bien sûr, il va manger des micro-mammifères, des mulots, il a besoin de beaucoup. Le serpent peut être aussi la proie d'autres animaux. Quelques buses, des fois, vont en manger, même des renards, mais elles ont un prédateur particulier qui s'appelle le circadian leblanc, qui est un oiseau qui ne mange pratiquement que des reptiles. 95% de sa nourriture est composée de reptiles. Donc, si on détruit les serpents, eh bien, cet oiseau, il sera obligé d'aller ailleurs pour se nourrir, sachant qu'il ne se nourrit que de ça.
Vous avez un peu répondu à ma question sur, évidemment, la nécessaire défense de l'espèce ou des espèces. Une espèce qui est en voie de disparition, quand même, sur le territoire.
Oui, bien sûr, c'est évident. On a détruit le milieu agricole. Hein. Le milieu agricole, c'est séparé de toutes ces haies, ces corridors qui permettent à tous ces animaux de se déplacer. Alors, même si le serpent n'a pas un grand territoire linéaire, ça permet aux populations de se rejoindre et puis d'éviter la consanguinité l'opportunité de changer le sang dans les différentes populations. Et ça, c'est triste. Donc, voilà, il y a toutes ces haies sont importantes puisque, ben, c'est leur lieu de vie, quoi. C'est très important. On a vraiment perdu beaucoup dans les populations de serpents. On a aussi le phénomène routier qui écrase beaucoup de serpents au moment du printemps quand les couleuvres sortent. Et on a de plus en plus de circulation, ce qui fait que, ben, elles ont plus de chances, si on peut dire ça comme ça, de se faire écraser aussi, quoi. Mais le principal cause, c'est vraiment la perte de notre milieu qui détruit nos populations de reptiles, quoi.
On arrive à la fin de l'émission, Vincent Boissonneau. C'est la dernière de la saison, je le rappelle. J'ai une question à chaque émission. La dernière pour vous aujourd'hui, c'est à côté de quoi, selon vous, on ne doit pas passer dans la défense de la biodiversité? Qu'est-ce qu'on ne doit pas rater sur ce long chemin?
Eh bien, il faut apprendre à observer, comprendre tout le mécanisme de la nature. Surtout se rappeler d'une chose, chaque animal, chaque chose a son utilité. Qu'on parle du ver de terre, aux serpents, aux renards, aux oiseaux, aux insectes, puisque les insectes seront la proie des grenouilles, qui vont être la proie des serpents, qui vont être la proie des oiseaux, et ainsi de suite. Alors, surtout, moi j'irais le message à retenir pour défendre les serpents, surtout laissons-les tranquilles, ils sont bien, on en a vraiment besoin d'eux, ils nous apportent des choses qu'on le voit pas, mais ils nous apportent des choses, et surtout lever cette crainte qu'on a des serpents.
On va essayer d'avoir moins peur. Merci beaucoup, Vincent. On retrouve donc l'émission en podcast. Et je rappelle, vous avez toutes les émissions de la biodiversité samedi en podcast sur 9FM. On se retrouve à la rentrée pour cette émission. Merci à vous et bon week-end à tous.
Je revois le fond.